France Culture.
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Comme chaque année, en prolongement de Soleil, rendez-vous protestant, nous nous retrouvons à 16h pendant 6 semaines, chaque dimanche du carême, et donc encore jusqu'au 13 avril inclus. C'est Solae, le carême protestant, proposé par la Fédération protestante de France, en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. C'est la pasteur Marie-Pierre Courneau de l'Église protestante unie à Paris, dans la paroisse de Montparnasse-Plaisance, qui nous conduit pendant ce temps de carême, en étant inspirée par le livre biblique et le personnage de Ruth. Quatrième épisode, donc, cet après-midi, chapitre 3. Au programme, les trois premières émissions étant disponibles, je vous le rappelle naturellement, à l'écoute sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Bonjour Marie-Pierre Courneau.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver Marie-Pierre et donc... Ce chapitre 3 du livre de Ruth au programme. Mais au fait, où avons-nous laissé la semaine dernière nos personnages préférés, Naomi, Ruth et Boaz?
Les deux veuves, Naomi et sa belle-fille Ruth, sont dans l'impasse. Elles ne peuvent pas assurer seules la continuité de la lignée, puisque leurs époux sont morts, sans enfants. Après avoir émigré depuis les champs de Moab, elles sont arrivées aux portes de Bethléem au moment de la moisson de l'orge. Elles n'ont rien, elles sont dans une extrême précarité. Pour trouver de quoi se nourrir et pour nourrir sa belle-mère Naomi, notre héroïne, Ruth, va glaner dans les champs. C'est la seule possibilité de survie qui est offerte aux pauvres, aux veuves, a fortiori aux étrangères comme Ruth. La chance, mais qui se cache derrière la chance? À chacun son interprétation. La chance donc fait que Ruth glane dans le champ d'un parent éloigné, le riche propriétaire Boaz. Contre toute vraisemblance, Ruth et Boaz vont se rencontrer dans le champ d'orge. Boaz cumule à l'égard de Ruth cadeaux et traitements de faveur. Cette rencontre miraculeuse se transformera-t-elle pour Boaz en coup de foudre? Le temps passe. À la moisson de l'orge succède celle du blé, et Ruth continue de glaner dans les champs de Boaz. À la fin du deuxième chapitre, Naomi avait dit de Boaz qu'il était un de leurs racheteurs.
Alors oui, nous nous étions arrêtés là. Il y avait déjà ce terme de racheteur d'utiliser. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un racheteur dans la Bible?
Dans la Bible, la possibilité de rachat s'applique soit à des propriétés agricoles, soit à des personnes. Quand ces propriétés ou ces personnes sont vendues dans un contexte d'extrême pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi s'appuie sur le principe de non-propriété de la terre par les humains, puisque le seul propriétaire, c'est Dieu. Le racheteur, dans ce contexte, c'est celui qui, parce qu'il est le plus proche parent, a le droit de revendiquer, de racheter un bien ou une personne, pour que la terre ou la personne ne soit pas aliénée. Et puis ailleurs dans la Bible, le racheteur apparaît également comme celui qui peut racheter le sang, c'est-à-dire venger la mort de son proche parent. Au stade du récit où nous en sommes, la nécessité d'un racheteur n'apparaît pas clairement, et la remarque de Naomi reste mystérieuse. Naomi pense-t-elle simplement à un homme qui épouserait Ruth? Mais alors, il n'y aurait pas besoin d'invoquer la loi du racheteur. Et par ailleurs, les deux femmes n'ont pas de terre, sinon Ruth n'irait pas glaner dans le champ de Boaz, et elles n'ont pas l'intention de se vendre pour survivre. Il n'y a pas non plus eu de meurtre qu'il faille venger. Mais on peut garder en tête cette histoire de rachat, car les choses vont s'éclaircir dans les chapitres suivants.
Eh bien, nous allons justement dans le... chapitre suivant, ce troisième chapitre, et nous écoutons Lydie Jean-Théodore à partir du verset 1.
Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit : « Ma fille,
Ne dois-je pas te chercher une situation de stabilité pour que tu sois heureuse ? En fait, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre proche parent ? C'est lui qui vanne sur l'air de l'orge ce soir. Lave-toi et parfume-toi. Mets ton manteau et descends à l'air de vannage. Ne te fais pas reconnaître de l'homme jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Et quand il se couchera, tu verras l'endroit où il se couche. Tu découvriras ses pieds et tu te coucheras. C'est lui qui te dira ce que tu dois faire. Et Ruth lui dit, « Tout ce que tu me diras, je le ferai. » Elle descend à l'air et fit tout ce qu'elle lui avait ordonné.
Est-ce que l'on peut dire, Marie-Pierre Courneau, que Naomi s'inquiète de l'avenir de Ruth comme seule responsable de Ruth ?
Oui, en effet, on peut dire qu'il est du devoir de Naomi de trouver à Ruth un nouvel époux. Et la voilà qui repense à Boaz, qui répète encore une fois que c'est un proche parent. Et Naomi envoie Ruth passer la nuit avec lui. En faisant ça, Naomi a forcément en tête l'enfant qui permettrait de perpétuer la lignée de son défunt époux et de rétablir son nom. On sent là poindre la loi du lévirat. Lévirat, ça vient d'un mot latin qui veut dire « beau-frère ». Et c'est cette loi qui dit que quand un homme marié meurt sans enfant, son frère épouse la veuve le temps de lui donner un fils. Ce fils sera officiellement l'enfant du frère mort. Il héritera de son nom et de ses biens. Mais encore plus qu'elle ne l'avait fait au premier chapitre, Naomi détourne de nouveau cette loi, puisque Boaz est sans doute un proche parent de son défunt mari, mais il n'en est pas le frère. On peut tout de même imaginer que c'est ce qui motive Naomi quand elle conseille à Ruth de descendre sur l'aire de vannage, retrouver Boaz, d'attendre qu'il ait bien bu et bien mangé pour venir se coucher à ses pieds et recevoir les ordres. Et là, il faut préciser qu'en hébreu biblique, langue dans laquelle ce récit a été écrit, les pieds, c'est l'expression polie pour parler du sexe masculin. Dans la Bible, la loi du lévirat et celle du racheteur n'ont pas de lien particulier. Elles répondent chacune à des situations tout à fait différentes. Naomi semble ici mélanger les deux, comme si avec deux lois dans sa manche, elle avait plus de chances d'arriver à ses fins. Ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que Naomi dit en fait, si l'on regarde bien le texte hébreu, « Lave-toi et parfume-toi, mets ton manteau et je descendrai sur l'air de vannage. » Et un peu plus loin, Naomi dit « et je me coucherai. » Les verbes sont conjugués en hébreu à la première personne, comme si c'était Naomi qui allait retrouver Boaz. On s'attendrait plutôt à une deuxième personne dans ce dialogue où Naomi dit à Ruth ce qu'elle doit faire. Le plus souvent, on explique cette incongruité grammaticale en supposant que la conjugaison du verbe est soit une forme grammaticalement archaïque, soit au contraire, une influence de l'araméen, langue sémitique qui gagne du terrain à l'époque et supplantera bientôt l'hébreu comme langue courante. Beaucoup de manuscrits hébreux ont corrigé la forme en mettant la deuxième personne, parce que c'est quand même beaucoup plus clair. Et c'est ce qu'ont fait aussi toutes les traductions en français, celles que nous utilisons couramment. Il n'empêche qu'à l'époque et à l'endroit de l'écriture de ce texte, Naomi dit bien « Je descendrai sur l'air de vannage et je me coucherai au pied de Boaz ». Certains manuscrits gardent la trace de cette confusion, de cette fusion entre les deux personnages féminins. Peut-être y avait-il à l'origine deux récits différents. Un autour du personnage de Ruth, l'autre autour du personnage de Naomi, transmis oralement et qui, au moment de la mise par écrit, ont été fusionnés pour ne faire plus qu'un, et il resterait des traces des deux histoires. On retrouvera la semaine prochaine d'autres traces de ces deux histoires qui s'entremêlent jusqu'à la confusion des deux femmes. Et puisque nous sommes dans les anomalies grammaticales de ce texte écrit en hébreu, signalons qu'à plusieurs reprises, le pronom personnel utilisé pour faire référence à deux femmes est un pronom masculin. C'est le cas dans le premier chapitre quand on parle des deux belles-filles, Ruth et Orpa. Puis c'est le cas pour le duo Naomi et Ruth. Cette discordance de genre grammatical se retrouve 9 fois dans ce petit livre. On ne peut sûrement pas dire que c'est un hasard. D'autant qu'en dehors de la grammaire, force est de constater que les rôles habituellement dévolus aux héros masculins dans les récits bibliques sont ici endossés par des femmes dans le livre de Ruth. Ce sont elles qui font progresser l'histoire, qui prennent des initiatives et des risques. Le livre de Ruth met en place le cadre pour un décloisonnement des genres qui ira avec un effacement des différences entre les personnages jusqu'à, on le verra, l'assimilation de plusieurs personnages en un seul, et ce sera particulièrement flagrant la semaine prochaine.
On en était donc à Noémie qui suggère à Ruth d'aller retrouver Boaz la nuit sur l'aire de vannage. Alors peut-être expliquer ce qu'est une aire de vannage, pasteur Marie-Pierre Courneau.
À l'époque, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse. Après la moisson, il fallait battre le blé pour que le grain se sépare de l'épi. Et cela se faisait sur l'aire de battage. Puis il faut trier entre grains et épis vides. Ils se trouvent, après le battage, mélangés sur le sol. Et quand on fait ce tri, ça s'appelle le vannage. Le vannage peut se faire de plusieurs façons. La plus archaïque se fait sur l'air, juste après le battage, en lançant les céréales dans le vent pour que le grain, plus lourd, retombe sur l'air, alors que la paille, l'épi vide et les autres impuretés, qui sont plus légers, sont emportés par le vent en dehors de l'air. Le vannage tient son nom des paniers en vannerie qui étaient utilisés dans cette opération.
Je vous propose de continuer la lecture de ce chapitre 3. Nous sommes au verset 7, maintenant, toujours avec Lydie Jean-Théodore.
Boaz mangea, but et fut joyeux. Il alla se coucher au bout du tas d'orge. Elle alla doucement découvrir ses pieds et elle se coucha. Il advint au milieu de la nuit que l'homme trembla. Il se retourna, une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu ? » Et elle dit « Je suis Ruth, ta servante. Étends donc sur ta servante le bord de ton manteau, car c'est toi le racheteur. » Il dit « Sois bénie par Yahvé, ma fille. Tu as fait un deuxième acte de bonté meilleur que le premier, en ne courant pas après les hommes jeunes. » Pauvre ou riche. Maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car toute l'assemblée de mon peuple sait que tu es une femme de valeur.
Selon les instructions de sa belle-mère, à qui Ruth a promis de faire tout ce qu'elle lui avait ordonné, Ruth, une fois Boaz repu, saoul et endormi, découvre ses pieds ou une partie plus intime de son individu. Notons qu'en hébreu, le verbe « découvrir » a le même double sens qu'en français. Il peut s'agir de « mettre à nu » ou de « prendre connaissance » pour la première fois.
Faut-il alors voir ici une allusion à certains textes de l'Ancien Testament, justement comme l'histoire de Noé ou celle de Lot ?
En effet, allons voir du côté de Noé. Noé, le célèbre héros du déluge, est victime d'une curieuse visite de la part de ses enfants. Une fois le déluge terminé, Noé plante de la vigne et invente la vinification. Après avoir goûté son vin, il s'endort, enivré et nu, dans sa tente. Pendant son sommeil, ses 3 fils pénètrent dans sa tente. L'un, Cham, découvre la nudité de son père, alors que les 2 autres le recouvrent de son manteau. À cause de ce geste de son père, le fils de Cham sera maudit. Un peu plus loin, dans le livre de la Genèse, il y a l'histoire de Lot, l'ancêtre de Ruth. Avec ses deux filles, il fuit la ville de Sodome, détruite par le feu divin, et tous trois se retrouvent seuls au monde, au milieu de nulle part. Les deux filles, animées par la même vocation que Naomi et Ruth, d'assurer la descendance familiale, saoulent leur père pour coucher avec lui dans son sommeil, à son insu. On voit que la figure du père, ou de l'homme plus âgé dans le livre de Ruth, qui, saoul, est abusé par ses enfants, ou par la génération plus jeune dans le livre de Ruth, est donc une figure connue dans la Bible. Quand il s'agit d'assurer la descendance, ce geste n'est nullement condamné dans la Bible, comme pour les filles de Lot et pour Ruth. En revanche, la conduite de Cham envers son père, Noé, qui semble gratuite et sans aucun objectif louable, est blâmée. On voit bien dans ces histoires qu'on ne peut pas utiliser directement les récits de la Bible pour décider de contraintes morales dans notre vie actuelle, cela n'aurait aucun sens. Mais revenons à notre ère de vannage. Un frisson réveille Boaz au milieu de la nuit et il découvre Ruth allongée à ses pieds. Ruth n'y va pas par quatre chemins. Elle lui demande d'étendre sur elle son manteau, ou plus exactement son aile, avec une expression qui en hébreu évoque la circonstance du mariage. Comme Naomi, elle parle alors de « racheteur », mélangeant la loi du Lévirat et la loi du rachat des terres ou d'esclaves. Le livre de Ruth prend décidément des libertés avec les lois divines. Il les réarrange, les articule pour creuser une voie vers le dénouement au sens propre du nœud de la mort qui enferme les protagonistes dans une voie sans issue. Sur cette ère, Ruth a retourné la situation. En conclusion des directives à suivre pour descendre à l'ère, puis sur place, Naomi lui avait dit, parlant de Boaz, « C'est lui qui te dira ce que tu dois faire. » Et Ruth, de répondre à sa belle-mère, « Tout ce que tu me diras, je le ferai. » Ruth était donc dans une position de double obéissance aux ordres de Naomi et aux ordres de Boaz. Mais une fois sur place, la double allégeance s'envole et c'est Boaz qui lui dit « Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. » Ruth, qui devient la donneuse d'ordres, y compris à un homme, plus âgé, plus riche et d'un milieu social nettement plus élevé qu'elle. La suite du récit nous dira si oui ou non, Boaz sera aux ordres de Ruth et fera ce qu'elle attend de lui. En attendant, Ruth devient, dans la bouche de Boaz, une femme de valeur, alors que jusque-là, c'était lui l'homme de valeur. Cette qualité est partagée, les soude déjà dans un couple de personnes de valeur.
Ruth, la pourvoyeuse de vie avec la pasteur Marie-Pierre Courneau dans Solae et le carême protestant et accompagnée par le piano d'Alessandro Sgobbio et son album Aphorismi Protestanti. Marie-Pierre, alors disons-le clairement, là dans cette histoire, tout n'est pas rose pour Ruth, puisqu'en obéissant à sa belle-mère, en descendant à l'air et en s'y couchant à côté d'un homme, Ruth met aussi sa vie en danger.
Absolument. Si elle est repérée, elle est fichue. Probablement condamnée à mort. D'abord parce qu'elle va rejoindre un homme qui n'est pas son mari. Ensuite, parce qu'en plus, c'est sur une aire de vannage, ce qui est loin d'être anodin, comme on va le voir. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, tout ce qui a trait à la terre et à l'agriculture a un caractère un peu dangereux, un peu transcendant, un peu sacré, un peu tabou. La terre, c'est le royaume des morts, et il s'établit une sorte de contrat entre les morts et les vivants. Les vivants prennent soin des morts en leur rendant hommage. En échange, les morts font naître une plante à partir du grain que l'on dépose dans leur terre. Malgré cela, s'attaquer à la terre, c'est tout de même entrer dans le domaine des morts. Et donc toutes les opérations de labour où l'on s'introduit dans la terre avec le soc d'une charrue ou d'un arère sont dangereuses. Dans les sociétés agricoles traditionnelles, le premier geste du labour est entouré de rites pour conjurer la réaction des morts dont on vient violer le territoire. Dans le même ordre d'idées, les moissons sont le temps où l'on arrache aux morts toute trace de leur possession, toute trace de la fertilité qu'ils ont rendue possible. L'aire de battage et de vannage est l'endroit où ont lieu les étapes finales de la moisson, qui a vu la céréale arrachée à la terre, donc au monde des morts. On comprend bien pourquoi l'aire de vannage est le dernier rempart possible pour les morts, le dernier endroit où ils peuvent intervenir, se rebeller contre cette intrusion des vivants dans leur monde. Pour les vivants, l'aire de battage-vannage est un lieu dangereux. De ce fait, dans les sociétés du pourtour méditerranéen qui pratiquaient encore le battage et le vannage traditionnels sur des aires au siècle dernier, cette aire de battage et de vannage avait souvent un caractère presque sacré. La construction de l'aire obéissait à des rites et des rituels, de même que les opérations qui s'y faisaient pour tenir à distance les morts dépossédés de leur champ par la moisson. On retrouve, entre autres, la coutume d'une aire plutôt réservée aux hommes, qui y pénètrent pieds nus et y passent la nuit, par souci de chasteté en ce moment crucial, et peut-être aussi pour éviter que le grain ne soit volé pendant la nuit. Tous ces éléments nous éclairent sur le comportement de Boaz, dormant pieds nus sur l'aire de battage. Ils nous donnent également une idée de la transgression majeure de Ruth, qui pénètre sur l'aire pour y passer la nuit avec un homme à côté du tas d'orge. Je crois que l'on prend aussi la mesure de la présence, implicite mais presque écrasante, de la mort comme vecteur du récit.
Le suspense est à son comble. Que va-t-il donc se passer sur cette terre? Eh bien, écoutons la suite. Et c'est Boaz qui parle.
Et maintenant, certes, je suis le racheteur, mais il y a un racheteur plus proche que moi. Passe la nuit ici, et si au matin, il veut te racheter, c'est bon, il te rachètera. S'il ne veut pas te racheter, c'est moi qui te rachèterai, par Yahvé vivant. Couche-toi jusqu'au matin. Elle se coucha à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Il disait, « Il ne faut pas qu'on sache que la femme est venue sur l'air. » Il dit, « Donne ce vêtement qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, il mesura 6 mesures d'orge et le mit sur elle. Il alla à la ville.
Boaz semble très bien voir ce que Ruth attend de lui quand elle parle de racheteur. Les distorsions que Naomi a infligées aux lois divines sont en fait connues de tous les protagonistes et donc probablement validées par l'usage et passées dans la vie courante à l'époque de la rédaction du livre de Ruth. Boaz accepte le principe du marché. Mais il signale qu'il y a une autre personne qui est un plus proche parent que lui et qui a donc la priorité pour racheter Ruth, c'est-à-dire manifestement pour l'épouser. mais il fait encore nuit, et Boaz propose à Ruth de finir la nuit avec lui. Il se joue quelque chose de crucial dans cette scène où l'homme et la femme, l'Israélite et la Moabite, le riche et la pauvre, se retrouvent allongés à même la terre. La question de savoir s'ils ont eu des relations sexuelles sur l'air reste ouverte. Le texte est volontairement ambigu et l'essentiel ne nous semble pas être là. L'enjeu du récit dépasse cette considération. Il ne s'agit pas d'un problème de moralité, laquelle est très variable en fonction des sociétés, des époques et des modes, mais il s'agit d'un problème de vie éternelle. Grâce à une mise en scène qui les implique physiquement tous les deux, d'abord dans une descente jusqu'à l'air, puis dans un contact étroit entre eux et la terre, une sorte de reconstruction va être possible. En mimant la position des morts couchés à même la terre sur l'aire de vanage, lieu probable de rituel en lien avec la fécondité et le sacré, Boaz et Ruth réussiront-ils ensemble le pari de redonner leur place aux morts pour assurer la régénération des vivants? Comme dans un avant-goût de fécondité, Boaz offre à Ruth une abondance d'orge. Ruth repart comblée de graines. Dans les sociétés traditionnelles du pourtour méditerranéen, une part variable de l'orge de l'aire de vanage est réservée pour les pauvres. Les pauvres viennent rappeler aux vivants ce qu'ils doivent aux morts qui ont permis à la terre d'être féconde. Ruth vient au nom des morts, en l'occurrence Élimélec et ses deux fils, pour garantir que les vivants respecteront leur part du contrat, rétablir le nom des morts et leur assurer une descendance. On a parlé tout à l'heure de la transgression de Ruth qui retrouve un homme qui n'est pas son mari, la nuit, sur une aire de vanage. On peut y ajouter la compromission de Boaz qui facilite et même récompense cette entreprise en lui donnant de l'orge.
Alors écoutons maintenant la fin du troisième chapitre, les versets 16 à 18.
Ruth alla vers sa belle-mère et celle-ci dit « Qui es-tu, ma fille ?» Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit « Tu n'iras pas les mains vides chez ta belle-mère. » Elle dit, « Reste à la maison, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera, car l'homme ne sera tranquille que s'il termine l'affaire aujourd'hui. »
Une transformation radicale a eu lieu, la nuit, sur l'air, à un tel point que Naomi ne reconnaît plus sa belle-fille et lui demande qui elle est. C'est la même question que Boaz avait posée à Ruth en la découvrant allongée à côté de lui dans la nuit. Mais qui est donc cette Ruth, personnage principal de ce livre? La suite, la semaine prochaine.
Merci, pasteur Marie-Pierre Courneau. Comme vous venez de le dire, la suite la semaine prochaine, ici sur France Culture, dimanche à 16h. Solae, le carême protestant vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Thomas Jost pour la réalisation et à Nicolas Depagraf pour la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Mais je vous le rappelle, un livre est également disponible qui s'intitule « Ruth, la pourvoyeuse de vie » publié aux éditions Olivetan. Et c'est un livre qui reprend l'ensemble des interventions de Marie-Pierre Courneau, réécrites pour être lues. Il est disponible sur le site www.éditions-olivetan.com. Et maintenant, sur France Culture, vous retrouvez le Carême catholique.